Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Révolution énergétique, le premier podcast entièrement dédié aux énergies bas carbone et à la transition énergétique. Et pour ce second épisode, je reçois Benjamin Laredo, qui est étudiant ingénieur, mais surtout rédacteur du scénario énergétique TerraWatt-heure, publié par l'association Les Voix du Nucléaire. Bonjour Benjamin Laredo et merci de nous accorder un petit peu de votre temps.
Bonjour Hugo.
Alors si je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que le scénario TerraWatt-heure que vous avez produit est le seul à ce jour à proposer un développement massif du stockage d'électricité en France. Vous proposez de construire ou de réaménager 19 steps. Alors les steps, c'est des stations de transfert d'énergie par pompage-turbinage. Rapidement, pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore, une step, c'est un moyen de stockage d'électricité de grande ampleur. Le concept, il repose sur deux réservoirs d'eau situés à différentes altitudes. Pour stocker l'électricité, on a des pompes qui remontent l'eau dans le bassin supérieur et pour déstocker, tout simplement, l'eau est relâchée dans un bassin inférieur en entraînant des turbines. Aujourd'hui, la France, elle compte 6 steps pour une puissance installée d'environ 5 gigawatts et un peu moins de 200 gigawattheures de capacité de stockage, si je ne me trompe pas.
Beaucoup moins que ça, en réalité. C'est beaucoup moins que ça.
Le chiffre que j'avais, c'était 184 gigawattheures.
Autant commencer là-dessus. C'est parce qu'en fait, on a beaucoup de steps. Un certain nombre de steps typiquement en fait alors les steps des Alpes donc Grand Maison, le Chélas, la Coche, non pas la Coche et Superbissorte qui en réservoir supérieur à la base est un barrage lac qui est beaucoup plus grand que leur réservoir inférieur. À Grand Maison par exemple le rapport est de 1 pour 10, ce qui fait que l'énergie totale dans le réservoir, les énergies, elles valent bien 180 et quelques gigawattheures. Par contre, ce que vous pouvez réellement pomper et turbiner de manière réversible, sans perdre d'eau, c'est que entre 70 et 80. Sachant que presque la moitié, même 90% de ça, c'est dans les seuls steps de Montézic que tu as visité et Grand Maison.
D'accord, donc en réalité, on est plutôt sur quelle capacité de stockage totale dans les steppes françaises?
Alors, on a bien 5 gigawatts de pompage turbinage, grosso modo, plus ou moins ça, et ça fait entre 70 et 80 gigawattheures de capacité, donc ça fait en moyenne, ça fait 16 heures. La réalité, c'est que on a quatre steps qui ont des constantes de temps de 4 à 8 heures et les deux autres, Montézic et Grand Maison, qui peuvent tenir entre 24 et 40 heures.
Ça rend votre scénario beaucoup plus impressionnant du coup, parce que moi, sur les chiffres que j'avais, j'ai calculé, donc vous proposez 42 gigawatts de steps pour 8000 gigawattheures de stockage, c'est énorme. Et moi, j'avais calculé que ça faisait x40 sur le stockage et x8 sur la puissance. Bah, du coup, de ce que vous me dites, ça fait beaucoup plus. Ma question, en fait, c'était pourquoi un tel gigantisme pourquoi autant de steps, qu'est-ce que ça peut apporter au réseau électrique du futur?
Alors, ce qu'on propose, 42 gigawatts, 8300 gigawattheures, c'est en plus. Donc, ce n'est pas x4, c'est pas x8. Techniquement, ça fait x9. Ensuite, il est vrai qu'à premier abord, ça semble énorme. En énergie, ça fait une multiplication par 100. Le petit point que pas mal de personnes ont tendance à oublier, c'est que, en fait, comme on utilise des sites qui sont très gros, le simple fait de faire un seul site, c'est-à-dire il y a un site de 400 gigawattheures, ça fait vous multipliez déjà par 6 le total de capacité de stockage en France. Un site de 1 terawattheure, vous le multipliez déjà par 13. Sans le facteur 100, en fait, il n'est pas si compliqué que ça à atteindre.
Concrètement, qu'est-ce que ça apporte au réseau électrique? Parce que la projection TerraWatt-heure, c'est une proposition de réseau électrique du futur. Pourquoi y intégrer autant de steps?
Alors déjà, on va dire que au niveau des autres scénarios, techniquement, tous les scénarios ont du stockage. Déjà, à partir du moment où ils ont des steps, même le scénario N03 RTE, ils ont 8 gigawatts de steps au total. Donc, ils ont tous du stockage, plus un petit peu de véhicules tout grid, mais c'est vraiment minime. Ensuite, tous les autres 100% renouvelables, ils vont tous utiliser, en quasiment tous, le vecteur hydrogène. Donc, ça aussi, techniquement, c'est du stockage. Là où nous, on se démarque effectivement, c'est qu'on est les seuls à proposer de faire du stockage de masse sur pompage turbinage. La question du pourquoi, elle est très simple. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule technologie disponible sur étagère qui soit capable de le faire. C'est tout simplement ça. En plus de ça, après, on peut avoir tout plein d'autres avantages liés au fait qu'on va être capable de stocker de l'eau. Donc, y compris au niveau de la manière dont on utilise l'eau, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand nos barrages de lacs, ils vont retenir la fonte des neiges au printemps et en été. Au moment où justement en été on aurait besoin que cette eau aille dans les cours d'eau parce qu'ils sont au plus bas, et ils vont la relâcher en plein hiver au moment où les cours d'eau sont déjà bien remplis. Alors que si vous avez des steppes, que vous pompiez ou vous turbinez, l'eau elle reste en circuit fermé. Si vous voulez allouer une tranche pour redistribuer de l'eau dans les cours d'eau, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de l'année, ça ne gêne pas. C'est un mode de gestion qui est beaucoup plus flexible. Ensuite, donc je disais. Donc technologiquement, c'est disponible tout de suite. Il n'y a pas d'incertitude technique dessus. Il n'y a pas beaucoup d'incertitude financière, c'est-à-dire que au global, et RTE le dit aussi, hein, que à partir du moment où on peut en faire, c'est bien d'en faire parce que ce sera toujours économiquement pertinent. Même à supposer qu'en 2050, on ait fait les steps, qu'en 2050 l'hydrogène s'avère être faisable et pas trop cher. En 2050, les steppes auront déjà été en bonne partie amorties. Ce qui fait que une steppe amortie, on peut pas faire moins cher qu'une steppe amortie. Les coûts d'exploitation d'une installation pareille, c'est quasiment rien. C'est presque gratuit. Donc, à partir du moment où vous avez déjà payé le prix de départ, vous y en avez pour des siècles et des siècles presque.
Justement, vous évoquiez les autres scénarios. Il y a celui de RTE, bon, il y a aussi ceux de l'association. Il y a aussi la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui suggère 1,5 gigawatt de step à l'horizon 2030-2035. C'est quand même assez surprenant de voir aussi peu d'ambition quand vous, à côté, vous proposez plus 42 gigawatts. Comment vous expliquez que le stockage soit aussi négligé globalement dans tous les scénarios énergétiques ?
Alors, le stockage hydraulique, on va préciser, parce que l'hydrogène, tout le monde en fait des caisses. Stockage hydraulique est assez oublié. Principale raison, c'est que pendant des décennies, il y a eu une énorme omerta sur l'hydroélectricité en France. J'emploie le terme omerta, je pèse mes mots. L'hydroélectricité en France, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé un peu au début de la guerre, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, quand il fallait reconstruire le pays. Et on a fait les grands projets les années 40, 50, 60, quelques-uns les années 70, et presque plus rien depuis. Le fait est que jusqu'à récemment, en gros, même la filière hydro disait on peut plus faire. Enfin, elle osait même plus dire. Elle disait on peut plus faire grand chose. Et tu peux voir que récemment, il y a à peine quelques jours, ils se disent ah maintenant on peut faire plus 12 TWh de production annuelle, c'est-à-dire plus 20%. Et un peu plus, ils vont finir par nous ressortir le rapport d'Ambrine de 2006 qui lui disait que en techniquement faisable, on pouvait aller jusqu'à 100 TWh par an d'hydraulique. Donc c'est-à-dire multiplication par 1,5. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, pourquoi cette omerta ? Je pense que c'est multifactoriel. Une première raison, c'est que avant qu'on fasse le parc nucléaire, c'était quand même l'hydraulique qui était le grand méchant. C'est-à-dire, on sait que faire les barrages, ça n'a pas toujours été une promenade de santé. On ressort toujours l'exemple de Chine parce que c'est vrai que c'est celui qui est le plus représentatif. Mais il faut bien garder en tête qu'il y avait eu des oppositions. Et donc, depuis, si je devais avancer, je dirais que depuis que c'est le nucléaire qui prend tout sur la tête, La filière hydraulique, elle est bien contente, parce que du coup, eux, personne vient les chercher, presque personne, et en plus aujourd'hui, maintenant que les barrages sont construits, tout le monde est bien content qu'ils soient là, parce que ça fait, quand c'est bien fait, des jolis ouvrages dans le paysage, ça fait des très bons points touristiques. Serre-Ponçon aujourd'hui, si vous enlevez Serre-Ponçon, vous tuez le tourisme dans le nord de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, en fait. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important, et même pour la gestion de l'eau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a permis, en gros, de mettre en valeur, de bonifier des terres grâce à l'irrigation fournir de l'eau de manière plus fiable. Ça, c'était... si on traduit c'est US Bureau of Reclamation, donc ceux qui ont construit et qui possèdent les grands barrages aux États-Unis, en français, on pourrait traduire ça par Bureau de bonification des terres. Donc, c'est pour bien montrer quand même qu'il y avait un aspect multi-usage qui aujourd'hui fait que l'hydraulique, personne ne peut vraiment s'opposer de manière crédible aux ouvrages qui existent déjà, parce que ce serait véritablement tuer des vallées. C'est-à-dire, avant on les a inondées, là si vous retirez, vous tuez tout ce qui est en aval. Voilà, donc ça c'est une raison. Ensuite, on a eu des raisons qui sont venues beaucoup plus récemment, qui sont économiques. Alors déjà, avant même économique, il faut savoir que depuis qu'il y a l'ouverture à la concurrence sur les marchés de l'électricité, les grands exploitants hydrauliques, donc EDF d'un côté et Engie via la HEM et la CNR de l'autre, donc Compagnie Nationale du Rhône et Société Hydroélectrique du Midi, depuis l'ouverture à la concurrence, ils ne sont plus tenus, voire peut-être même ils n'ont pas le droit, je sais pas exactement quelle est la nuance entre les deux, de publier leur projet. C'est-à-dire qu'en gros, leur projet, ça fait partie de leur patrimoine d'entreprise. Ils sont pas tenus de les publier. Ce qui fait que, c'est un élément qui s'ajoute, c'est-à-dire si personne publie les projets, personne ne sait qu'ils existent, et du coup, tout le monde pense qu'on peut plus rien faire. Et enfin, dernier élément, c'est évidemment toute cette histoire autour des concessions hydrauliques. Donc avec l'ouverture, les barrages fonctionnent comme les autoroutes, ils sont construits par les exploitants, mais ils appartiennent à l'État. Et ils ont le droit de les exploiter pendant un certain nombre de décennies, je sais 75 ans, il me semble. Et arrivé à la fin de cette période, il y a un appel d'offres et différents exploitants proposent de venir exploiter. Et l'État en choisit un. Alors l'État traîne des pieds pour ça, parce que comme on le disait, que les barrages sont un sujet d'aménagement du sujet très important d'aménagement du territoire, c'est très difficile de venir faire de venir mettre du en fait de la gestion privée là-dedans. Plus le fait que beaucoup d'aménagements fonctionnent en chaîne, c'est-à-dire que ils sont cohérents sur un bassin versant. Donc toi t'étais à Montézic, donc c'est le massif de la chaîne de la Truyère. À côté il y a je l'ai vu cette vidéo, je l'ai beaucoup aimée. Et moi j'ai fait Nord de Drance, bon elle tournait pas encore, mais mais oui c'est impressionnant. Et voilà, donc à côté il y a la chaîne Dordogne, et en Provence on a la chaîne Durance, un aménagement qui est, quand on regarde comment il est fait, il est extrêmement impressionnant au niveau de... Et ça, si vous les vendez en morceaux, vous désoptimisez complètement la gestion de l'eau, en fait. Parce que c'est, quand un barrage produit en tête, c'est tous les autres qui vont se mettre à produire en même temps. Donc il y a ça, plus le fait que la gestion de l'eau pour les différents usages, le partage de l'eau, c'est quelque chose qui est géré au niveau des préfectures. Voilà, et ce qui fait que, en fait, si on regarde, même à l'étranger, les grands barrages sont quasiment toujours de près ou de loin géré par un organisme public. Même aux États-Unis, les grands barrages, Hoover, Glen Canyon, Grande Coulee, Oroville et tout ça, ils sont gérés par un organisme soit fédéral, soit propre à l'État dans lequel ils sont installés. Donc c'est très difficile de faire mettre de la concurrence là-dedans. Et ce qui fait que non seulement il y a cette histoire de renouvellement des concessions, mais qu'en plus, le petit là où le bas blesse encore plus, c'est que lorsqu'un exploitant veut faire un nouveau projet sur une chaîne, un ouvrage qui lui appartient, ça remet automatiquement en concurrence la concession. C'est-à-dire que c'est pour ça que du coup personne ne peut dire je vais lancer tel projet, parce que ça voudrait dire le nouvel appel d'offres, et dans les deux ou trois ans qui suivent, hop, il pourrait perdre le droit d'exploiter et c'est quelqu'un d'autre qui viendrait récupérer la concession et le projet. Alors, quand on a déjà mis des dizaines de millions d'euros en études géologiques, en études techniques et peut-être même en travaux préparatoires, ça la fout un petit peu mal.
Justement, vous évoquez donc tous ces projets. En tête, il y a surtout EDF, hein, qui a, on va dire, deux principaux projets de développement de STEP. Il y a l'extension de Montesic, une STEP existante, mais il y a surtout celui de Redena, qui est resté pendant 40 ans dans l'oubli complet. Les travaux avaient commencé en 1982. Ils ont été arrêtés. Déjà, est-ce que vous savez pourquoi ils ont été arrêtés? Il y a un tunnel de 700 mètres de long, de gabarit assez gros, qui s'enfonce dans la montagne et qui a été arrêté net. Il y a des investissements importants qui ont été faits là. Pourquoi le projet de STEP de Redena n'a pas été mené à bien?
Alors, Redena, sincèrement, je ne connais pas vraiment les raisons pour lesquelles ça ne s'est pas fait. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y avait plus autant de besoins que je sais pas si comment s'est organisé l'opposition à cette époque-là, s'il y en avait ou pas. Bon, je retiens que ça s'est pas fait. Par contre, juste pour revenir, tu parlais de l'extension de Montesic, c'est un exemple extrêmement criant de ce que j'expliquais juste avant. Alors moi, honnêtement, j'ai eu vent de ce projet d'extension presque l'été dernier. Quelqu'un qui touchait un peu, qui touchait à ces sujets, donc qui était proche de ces milieux, il m'avait au détour d'une conversation, il l'avait abordé, voire peut-être même avant ça. Mais juste pour dire, cette extension n'a été annoncée publiquement qu'en décembre 2022. C'est dire à quel point tout ça, c'est opaque. En vrai, si vous voulez chercher une filière d'énergétique en France qui soit opaque, c'est l'hydraulique la plus opaque. On nage dans nos troubles avec l'hydraulique. L'éolien, le solaire et tout ça, le nucléaire, vous avez eu des rapports à droite, à gauche sur combien ça coûte, combien il faut pour faire, etc. etc. L'hydraulique, j'ai jamais trouvé un seul rapport dessus. À part le rapport d'Ambrin qui parle du potentiel et qui cite un rapport qui avait été fait 40 ans plus tôt et que j'ai pas réussi à mettre la main dessus, il y a aucun rapport qui parle des prix, de combien ça coûte l'hydroélectricité en France.
Vous parlez justement de crainte des oppositions. Pour revenir sur Redena, forcément, je me suis déplacé sur le site qui doit accueillir, si le projet se concrétise, le site qui doit accueillir le bassin supérieur. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'est quand même des zones naturelles, on va dire. Il y a beaucoup d'exploitations agricoles et forestières, mais il y a aussi des torrents avec ce qu'on appelle des zones humides, des bosquets qui se sont un peu ensauvagés. Personnellement, j'ai énormément de mal à voir comment le projet, s'il est relancé, pourrait être accepté socialement. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Sainte-Soline avec les méga-bassines qui sont pas si méga que ça comparé à un réservoir de STEP, comment c'est absolument inenvisageable de parvenir à mener des travaux, et pourtant Redena, c'est pas la plus grosse STEP de votre projet TerraWater. Comment vous le voyez, ça?
Alors, le premier point, c'est que avant de parler d'acceptation sociale, il faut d'abord qu'il y ait un projet à proposer. Le fait est que jusqu'à présent, et même moi, il y a encore 2 ans, j'y croyais, je pensais qu'on pouvait plus rien faire de significatif en hydraulique en France. La plupart des gens le pensent. En tout cas, la plupart des gens qui s'intéressent un petit peu à l'énergie. Donc, le fait est que on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer parce que il y a rien qui est proposé. Et ben, du coup, s'il y a rien qui est proposé, il y a aucun projet, aucune étude d'impact. Donc, voilà, donc pour l'instant, c'est pour ça l'une des premières étapes, puisque nous on porte aux voix, c'est de dire, avant de venir parler d'acceptabilité et tout ça, il faut dire aux gens que c'est possible de faire ça, et de leur expliquer les pour et les avantages et les inconvénients, et ensuite ils choisiront. Ensuite, la comparaison avec les bassines, je pense qu'il y a des plus et je pense qu'il y a des moins au niveau de cette comparaison. Des plus, déjà, c'est un gros réservoir d'eau, ça c'est sûr. Mais le moins, là où je pense que la comparaison peut vite être délicate et pas toujours très pertinente, c'est que un des points, même si c'est quelque chose qui est complètement faux, en grande partie, en majorité, un des points qui motive ces manifestations, on va pas se mentir, très très violentes, c'est que les gens ont l'impression qu'une poignée de personnes s'attribuent et s'approprient les ressources de toutes les autres. Donc, ils ont l'impression que c'est un méchant privé qui vient voler l'eau des petits agriculteurs dans leur. plus le fait que, comme c'est des gens qui n'ont jamais regardé les études qui étaient portées là-dessus, ils savent pas que si le projet a été approuvé, c'est parce que il y avait un avantage à faire ce projet au niveau de la gestion de l'eau sur le bassin versant et que dans l'ensemble, c'est le rapport du BRGM, toutes les bassines ne se valent pas, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut regarder cas par cas. Et dans ce cas-là, en l'occurrence, le BRGM disait, dans l'ensemble, c'est positif parce que en récupérant plus l'eau en hiver, on pourra moins solliciter les nappes en été, ça permettra de mieux régulariser les cours d'eau seront un peu mieux remplis, etc. C'est dans ce cas-là, c'était positif. Il y avait pas de c'est ça l'objectif des bassines, hein, Laurie. C'est de prendre l'eau au moment où elle abonde pour ensuite la redistribuer au moment où il n'y en a pas. Ce qui n'empêche pas et ce qui est marqué dans le rapport aussi, de mettre en place des politiques pour réduire pour limiter et surveiller les usages. Et d'ailleurs, ce qui montrait, c'est que sur des bassines déjà faites, les politiques, l'association de gérer l'approvisionnement en eau avec les bassines plus d'adapter les cultures locales, ça, les deux ensemble ont eu des résultats qui sont franchement positifs. Voilà. Donc je n'irai pas dans les détails. Moi-même, j'ai pas lu les études. C'est des collègues de l'association qui ont lu les documents qui m'ont rapporté ça. Donc je n'irai pas plus dans le détail que ça. Mais voilà. Donc il y a ce point-là. Donc le fait est que une partie de ces problématiques une partie c'est de l'ignorance et une partie c'est un sentiment de spoliation. Voilà, donc déjà, c'est quelque chose, pour peu que ce soit EDF qui mène la danse, ce qui en général serait le cas pour ce genre d'ouvrage, EDF, ça reste un groupe public, encore plus depuis la renationalisation. Les gens pourront pas dire, ouais, il y a quelques privés qui s'attribuent l'eau. EDF, c'est appartient à tous les Français. EDF profite à tous les Français. Le réseau électrique est national et même européen, ça profite à tout le monde. Voilà. Donc, oui, il y aura des oppositions, ça c'est absolument certain. D'ailleurs, il y en aura à Bure aussi, hein, pour les mises en service, pour Cigéo. Il y a des problèmes de pédagogie, il y a des problèmes de tous les côtés. Il y a des problèmes de pédagogie, il y a des problèmes de gestion des foules, des problèmes de violence policière, des problèmes de manque de fermeté aussi. C'est-à-dire que quand on a laissé faire des choses dans le passé, évidemment, aujourd'hui, ça incite un peu au laisser-aller. Voilà. Donc, il y a des problèmes à gérer de partout, mais il faut bien commencer par prendre la situation. Il faut commencer quelque part, et pour commencer quelque part, il faut proposer les projets.
Forcément, avant de faire des états des lieux, de la biodiversité sur place, des études d'impact, etc., il est évident que construire des STEP, à première vue, va très fortement impacter la biodiversité locale. Est-ce que vous pensez que les effets apportés par ces STEP, les effets positifs, sont supérieurs aux effets négatifs locaux causés par les travaux et l'exploitation aussi. Parce que une STEP, ça doit se vidanger, etc. Il y a un marnage extrêmement fort sur les bassins qui limite la biodiversité sur place.
Wow, bon, ça, regardez Serre-Ponçon quand il fait plus ou moins 40 mètres de marnage entre l'été et l'hiver. Bon, c'est à peu près la même chose, hein. Mais alors, il y aura des impacts, certainement. Ça, c'est absolument indéniable qu'il y aura des impacts. Toute la zone, stricto sensu, des réservoirs sera impactée. Après, il faut voir, comme on dit, il faut toujours comparer aux alternatives. Si l'alternative, c'est de se rendre compte que l'hydrogène, ça marche pas bien et de continuer à brûler du gaz, elle est pas franchement glorieuse, l'alternative. Même si, je dis aussi, on va préciser un point, c'est que le scénario N03 d'Ayrton, dans sa version standard, la version réindustrialisation profonde en a besoin, mais la version standard n'utilise pas d'hydrogène. Il repose majoritairement sur les interconnexions, ce qui est un point que nous, en tant que citoyens à l'association, il nous déplaît fortement. Cette interdépendance trop importante entre les pays européens, on considère que c'est relativement risqué au vu de ce qu'on a vu cet hiver avec la crise ukrainienne et tout ça. De deux, parce que on n'est pas certain que tous les pays atteindront leurs objectifs. D'ailleurs, même RTE dit qu'il est probable que les pays n'atteindront pas leurs objectifs et qu'ils seront tous en retard. La plupart seront en retard. Voilà, donc il y a cette raison-là. Donc, l'alternative, donc c'est ça. Donc, même dans le scénario L03 qui n'utilise pas en propre en France du stockage par hydrogène, bah, en fait, via les interconnexions, le stockage, il est ailleurs. En fait, techniquement, ce qu'on fait avec N03, c'est utiliser les centrales à gaz des voisins. Bon, il y a des petites questions éthiques et derrière. Voilà, donc pour dire que l'hydrogène, si ça marche pas bien chez nous, il n'y a pas de raison que ça marche mieux ailleurs. Hein, c'est ça. Donc c'est ça. Donc soit déjà il y a ça, donc le risque de brûler plus de gaz, de charbon, etc. Ou d'avoir un recours plus accru à la biomasse pour combler des trous. Par exemple, si on avait besoin d'utiliser du biogaz, sachant que nous, si on pousse autant l'électrification dans le scénario terawatt-heure, c'est justement pour libérer le maximum de biomasse pour les usages qui sont pas électrifiables. Donc la marine, l'aviation, les engins, pas mal d'engins agricoles, parce qu'un tracteur, ça pendant une moisson, ça consomme énormément, des engins de chantier, et un reliquat de chauffage pour les 15% de logements qu'on électrifiera pas, et aussi ben pour fournir de la matière première pour tous les usages non énergétiques qu'on a tendance à oublier. Voilà, et donc en gros, en résumé, c'est comme ça que je le résumais quand je l'ai présenté il y a début mars, là on était au colloque Focus Hydro. Je disais en gros, on peut pas électrifier l'aviation, mais c'est l'électrification du reste de l'économie qui peut rendre l'aviation plus durable. En gros, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc voilà, il y a soit le risque d'utiliser plus de biomasse, avec le risque de ne simplement pas en avoir assez. Et le risque, et ensuite au niveau des avantages, par contre, qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage? Donc, on a dit au niveau de la gestion de l'eau, on peut avoir des endroits où il y a eu un rapport que j'ai pas pu lire, mais qui préconisait, je crois que tu en avais parlé en plus, de construire quelques steppes dans le sud-ouest pour améliorer la gestion de l'eau sur le bassin Adour-Garonne. Donc, il y a ça, sachant que par exemple, grosso modo, dans un scénario au-delà de les scénarios de réchauffement climatique, là, à plus 4 degrés, d'ici 2100, il n'y a plus ni neige ni glacier sur les Pyrénées. Donc, au niveau du stockage d'eau, là, on va avoir une très très grosse question, parce que ce sont les glaciers et les neiges qui permettent de garantir le niveau des cours d'eau l'été. Si on n'a plus ce stockage naturel, il va bien falloir le trouver ailleurs. Parce que la Garonne, au-delà de la centrale de Golfech, c'est quand même toute l'agglomération toulousaine qui en dépend pour son eau. Donc Toulouse et tout le bassin, en fait. Il y a des questions très importantes là-dessus. Ensuite, on peut aussi envisager les compensations au niveau environnemental. Donc typiquement, ce qu'on peut faire quand on construit un nouvel aménagement, c'est-à-dire on troque un gros aménagement de lac contre, on va dire, on va supprimer un certain nombre d'aménagements au fil de l'eau qui produisent pas beaucoup et qui au niveau flexibilité ne servent pas à grand chose. Fil de l'eau, c'est pas flexible, ça vient avec le débit cordon. On peut dire, bah, on vous fait ça et en échange, on va enlever les barrages sur cette rivière, sur cette rivière, sur cette rivière, et on va renaturer tout ce tronçon là. Ce sont des propositions qui peuvent être pertinentes. Et puis enfin, le dernier point à retenir, c'est faut regarder in fine, est-ce que c'est vraiment une surface qui est si importante que ça? Et nous, on s'était amusé à la comparaison. C'était que en termes de surface au sol, alors, ça a un petit peu augmenté parce qu'on a remplacé une steppe par une autre, qui nous a permis de gagner 2000 personnes déplacées quand même. Hein. Même si vous regardez la surface totale, donc à peu près 300 km², vous êtes toujours à 2 à 3 fois moins que le solaire au sol dans le scénario N03. Celui qui est le moins disant en termes de solaire au sol, on est quand même, sachant qu'en plus on peut faire de la mutualisation, mettre du solaire flottant. Et donc il y a des possibilités, hein, on peut mettre quelques gigawatts comme ça sur les lacs sans trop de soucis. on mutualise les espaces, on réduit l'évaporation, c'est relativement tout bénef. Faut faire gaffe à l'eutrophisation, mais si on gère bien, c'est tout bénef. Donc ça c'est tous les points au niveau de, puisqu'on parlait de l'impact, c'est tous les points qu'il faut avoir en tête, c'est que de un, faut voir les alternatives, de deux, faut voir ce qu'on peut faire comme compensation, et de trois, faut voir ce qu'on accepte à côté et être cohérent à un moment sur dire ok, on accepte telle nuisance, si on n'en accepte pas la même ailleurs, c'est qu'on est un petit peu hypocrite. Voilà.
Au-delà de l'aspect biodiversité, acceptation sociale, une STEP, combien ça coûte ? Vos propositions, elles sont extrêmement ambitieuses, techniquement, mais est-ce qu'elles sont réalisables économiquement ? Un réseau électrique avec beaucoup de STEP installés, est-ce qu'il est capable de fournir de l'électricité bon marché à la population, à l'industrie ?
Alors, au niveau des coûts... Pour dire ce qui va particulièrement, parce qu'on a fait une petite analyse économique quand même, on a fait un calcul de combien allait coûter le système en se basant en grande partie sur des hypothèses de RTE. RTE, c'est notre référence, c'est le rapport de référence. Tout ce qu'ils disent dedans, c'est il y a énormément d'informations, c'est une mine d'or. Et il y a plein de choses qu'on source grâce à eux en fait. Donc, pour dire, en faisant le calcul, alors on est quelques pourcents plus cher que N03 parce que tout simplement on a plus de capacité en propre. C'est-à-dire, on est en mode, on a dit qu'on veut pas avoir à compter sur les imports-exports. Donc c'est normal à ce moment-là qu'on soit un peu plus cher. Après, les steps, RTE le dit, c'est au niveau stockage, c'est le moins cher, grosso modo. Ils parlent en termes de flexibilité, donc ils disent c'est l'un des moyens de flexibilité les moins chers. Bon, en gros, en stockage, on fait pas moins cher. Surtout une fois amorti, c'est ça coûte rien. Donc on est aux alentours, en ordre de grandeur, on est à 100 à 105 euros du mégawatt-heure. Ouais, 105 plus 105 quand le N03 est à 100 tout rond. C'est une fois déduit des pertes. C'est 600. Nous, on fait les calculs hors pertes parce que les pertes, tout le monde les paye de toute façon.
En parlant de pertes, les pertes propres au STEP, en général, on dit que c'est 20% de pertes, 80% de rendement. C'est juste ça, c'est ce qui est constaté actuellement.
Alors nous, on a considéré 75% parce qu'on a des projets qui ont des grandes adductions d'eau. Pour pouvoir avoir des grands réservoirs, il faut qu'ils soient... On peut avoir des grands réservoirs, mais il faut juste qu'ils soient un peu plus éloignés, généralement. Ça se justifie à partir du moment où les réservoirs sont très grands. En gros, il y a une règle du pouce au niveau des steps qui dit que le rapport entre la distance horizontale entre le réservoir et la hauteur de chute, faut essayer de rester en dessous de 10. On appelle ça le rapport L sur H, L pour longueur, H pour hauteur. En réalité, on peut aller bien au-delà à condition que la taille des réservoirs le justifie, tout simplement. Snowy 2.0 en Australie, le rapport L sur H, il frise les 40. Mais ils ont 350 gigawatt-heure. Voilà. Et c'est là qu'en fait on a un changement de paradigme tout à fait intéressant. C'est que avant les STEP c'était un outil de déplacement de charges journalier, hebdomadaire, on pompait la nuit pour turbiner en pointe le soir.
En France, petite précision, les STEP, elles ont été construites pour le parc nucléaire, à une époque où il n'y avait pas du tout de solaire et d'éolien.
Tout à fait.
Parce qu'on associe parfois le développement du solaire et de l'éolien à la nécessité de développer du stockage. Or, les seules solutions de stockage dont on bénéficie en France, stockage de grande ampleur, elles sont héritées de l'époque nucléaire.
Tout à fait. Dans tous les grands pays, les STEP ont été développés justement pour aider à mieux amortir les centrales de base, donc nucléaire et charbon. Parce que en plus avec ses coûts variables quasiment nuls, le nucléaire, bon, c'était plus simple. C'est pareil partout dans le monde. Donc, histoire d'enfoncer un peu plus le clou, la raison première de faire des steps, d'avoir du stockage dans le scénario, c'était pas, c'est pas, ça n'a rien à voir avec les renouvelables. la première nécessité, pour montrer un peu aussi à quel point on est parti vraiment du besoin de la consommation, de dire qu'est-ce qu'on va consommer et de quoi on a besoin pour y répondre. Et la première raison, c'était de passer les points d'hiver sans avoir besoin à importer ou à brûler des combustibles fossiles. C'est la première raison, c'était ça. Après, tu as toutes les autres, hein. Évidemment, pour stocker de l'éolien et du solaire, c'est tout à fait pertinent. Mais la toute première raison, elle était là. Elle avait absolument rien à voir avec les énergies renouvelables.
Donc les steps, ça met un peu tout le monde d'accord, quoi, au final, hein, quel que soit le mix électrique.
Et ce qui fait d'ailleurs que on est attaqué un peu de par tout le monde. Ça, c'est d'une certaine manière, c'est trop marrant parce que en gros, les anti-nucléaires nous disent on est trop pro-nucléaire et trop anti-renouvelable. Les très pro-nucléaires du CRME, ils viennent nous dire vous êtes trop pro-renouvelable et pas assez pro-nucléaire. C'est complètement, comment dire, contradictoire en fonction de qui, à quel opposant à notre association que vous avez en face, ils vont pas vous dire la même chose.
Et justement, vous parlez des échos à votre scénario terawatt-heure. Est-ce que le volet stockage a eu un écho auprès de responsables politiques, auprès de personnes haut placées dans l'énergie? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce que ça leur donne envie d'accélérer sur le stockage?
Récemment, on voit que ça commence à bouger, mais on ne sait pas encore si c'est nous qui avons, si cet impact qui vient de nous ou pas. Alors, on aimerait beaucoup hein, que ce soit nous, histoire de flatter un peu l'ego, mais pour l'instant, on n'a aucune preuve, aucun élément pour montrer que c'est vraiment, ça vient de notre fait. Cela dit, on est quand même très content de voir que bon, le filière hydraulique commence enfin à sortir un peu du silence. Je pense que l'effet principal vient de la commission parlementaire sur les raisons de la perte de souveraineté énergétique. Par exemple, c'était mon Arnaud Montebourg quand il a parlé d'hydraulique, il a dit il y avait tout un rapport avec tout un tas de sites qu'on pouvait faire et personne n'a jamais publié. Moi, je l'ai eu entre les mains mais ça a été classé quoi. C'est bon. Alors du coup, maintenant que ce genre de choses commence à ressortir et qu'en plus, disons que les Français qui ont eu un peu peur cet hiver, moi le premier, se sont dit tiens, finalement, ce serait pas une mauvaise idée de reconsidérer la question. Voilà, donc il doit y avoir de ça et je ne saurais pas en dire plus.
On a parlé beaucoup de STEP, vous avez évoqué un petit peu l'hydrogène. Les STEP, évidemment, c'est pas le seul moyen de stocker de l'électricité qui existe aujourd'hui. C'est le plus utilisé au monde, si je me trompe pas, mais c'est pas le seul. À la mode en ce moment, il y a les mégabatteries, l'hydrogène, vous l'avez dit. On voit aussi émerger des projets de stockage par air comprimé dans la roche, dans les sous-sols. Comment choisir au juste quel moyen de stockage a le meilleur rapport qualité-prix?
Ah bah c'est simple. Si vous pouvez en faire, vous faites des steps. C'est aussi simple que ça. Si vous pouvez faire, si vous avez le relief, que vous avez assez de vision à long terme et que vous êtes capable de convaincre votre population, vous faites des steps, vous ne serez jamais déçu.
C'est un indémodable du stockage, la STEP, si j'ai bien compris.
C'est un indémodable. Regardez, la Chine a des ambitions, je crois, d'aller monter à plus de 400 gigawatts de STEP sur son territoire d'ici 2050. Bon, on voit, eux, ils sont sérieux. Et en plus, comme eux, ils en font, chaque année, c'est plusieurs gigawatts qui rentrent en service. Ils le font quasiment à la chaîne. Donc, au niveau de, et en plus, en termes de projet de génie civil, ils sont extrêmement bien rodés. Donc, ça décaisse du béton, quoi. Ça y va. Ils peuvent faire des projets avec des coûts raisonnables, avec des délais raisonnables aussi. Ensuite, il y a quand même des pays qui ont décidé de s'y réintéresser. Donc, on a eu la Suisse un peu. La Suisse qui, en plus, maintenant, réenvisage de reconstruire des barrages pour des barrages normaux pour augmenter ses capacités de production hydroélectrique parce qu'il y a la sortie nucléaire et que, en plus, les Suisses n'aiment pas les éoliennes. Alors, littéralement, les Suisses n'aiment pas les éoliennes. Le solaire, ils aiment bien, mais bon, on sait que le solaire pour les besoins hivernaux suisses, la pertinence, elle est faible. Ensuite, il y a quoi? Au Royaume-Uni, il y a un projet qui avance à côté du Loch Ness, d'ailleurs. Un projet de STEP, je ne sais plus combien il fait. il doit faire à peu près 1 gigawatt, quelque chose comme ça. L'Espagne a des ambitions aussi, parce qu'en plus, eux, ils ont un très bon relief pour ça. Puis après, si on regarde ailleurs dans le monde, donc j'en ai parlé de la Chine, l'Australie avec Neo 2.0 et quelques autres petits projets, dont un très gros qui vient de sortir, qui est en pré-analyse à côté de Brisbane. La Nouvelle-Zélande, c'est sorti très récemment dans Révolution énergétique, je t'en avais déjà parlé il y a 2 ans et demi. Le gros projet, le projet Dunslow, donc là, on parle de faire du stockage interannuel, donc entre 5 et 10 TWh de capacité. Alors eux, s'ils le font, en plus, il n'y a personne dans l'endroit, donc ils vont pas gêner grand monde, mais pour le coup, ce serait extrêmement significatif. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, les pays sud-américains, ils en ont pas beaucoup besoin parce qu'ils sont déjà beaucoup en hydraulique. Il y a quelques projets aux États-Unis, il y a un ou deux projets, je crois, et puis après, bon, use. Au niveau des autres technologies, alors les batteries ne courent pas dans la même catégorie. Les batteries, c'est vraiment pour faire du report de charge de 3 à 4 heures maxi. C'est pour faire du report de charge de 12 à 40 dans l'utilisation traditionnelle de 12 à 40 heures. Voilà. Et en gros, les trucs par air comprimé, les stockages par air comprimé et tout ça, ça c'est vraiment pour des pays qui ont pas envie de soit qui ont pas la possibilité parce qu'ils ont pas le relief. Et il y en a un certain nombre qui n'auront pas le relief. Les Pays-Bas, ils n'auront pas le relief. Désolé pour eux. Soit parce qu'ils ont pas envie de s'embêter avec les recours ou avec les règles européennes sur la concurrence des concessions, etc. Donc il y a de ça, mais il faut garder en tête que tout ce qui est stockage par air comprimé, ce sont des systèmes qui sont thermodynamiques, donc il faut comprimer un gaz, parfois même le faire changer d'état avec le stockage cryogénique, et tout ce qui fonctionne avec un changement d'état thermodynamique a des pertes très importantes. C'est pour ça, alors en trichant un peu, ils arrivent à monter les rendements au-delà de 50%, mais le fait est que pour arriver au-delà de 50%, il faut non seulement qu'ils stockent l'air comprimé, mais il faut qu'ils stockent la chaleur avec. Et donc, ça fait perdre la quasi-totalité du bénéfice de la technologie qui est, de juste prendre un truc qui est gratuit et de le mettre dans un endroit qui est gratuit aussi, c'est-à-dire le sous-sol. Et en fait, parce que c'est ça, techniquement, en fait, on va ressortir un peu de Jean-Claude ici, mais c'est pas cher parce que c'est fourni par Dame Nature. Les steps, c'est pareil. C'est pas cher parce que la baignoire dans laquelle on met la flotte, elle est fournie par Dame Nature. Le stockage hydrogène qu'on prévoit de faire dans les cavités salines surtout dans les cavités salines parce que les aquifères, pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Techniquement, c'est pas du tout mature, très loin de là. C'est en théorie pas cher parce que c'est la nature, c'est le sol qui contient tout. L'air comprimé, pareil. Et on voit bien que le stockage devient prohibitif à partir du moment où il faut construire l'entièreté du dispositif. CF, les batteries. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. À partir du moment où vous devez construire l'entièreté du dispositif, ça coûtera cher.
Tout à l'heure, vous parliez du gigaprojet néo-zélandais de STEP avec entre 5 et 10 TWh. Justement, les lecteurs très fidèles à Révolution énergétique, ils vous connaissent peut-être déjà parce que en 2020, on avait publié un article sur un projet que vous aviez à peu près élaboré. Le projet, c'était de noyer la vallée d'abondance en y construisant une énorme STEP de 3 TWh de capacité. Rassurez-nous, si demain vous êtes ministre de la transition énergétique, vous n'allez pas faire ce projet quand même, vous n'allez pas noyer la vallée d'abondance.
Il n'est pas prévu dans le scénario, donc elle n'est pas nécessaire, mais c'est pas un mauvais... Mais en vérité, on a un ingénieur hydraulique qui bosse maintenant avec nous aux voix. Pour bosser sur ces sujets. C'est pas un mauvais site, histoire d'avoir un petit peu de contexte pour la petite histoire. Donc, on dit grande abondance, ce projet-là, il venait d'une boutade. C'était plus qu'une boutade, c'était les propos de Jean-Marc Jancovici en 2019 à l'Assemblée sur les coûts des énergies renouvelables. Là, quand il parlait de 100% renouvelable, il dit pour stocker, vous pompez l'eau du Léman, vous la remontez dans les vallées. Je l'avais pris au pied de la lettre à ce moment-là, j'ai dit ok, voyons ce que ça donne si on le faisait vraiment. C'est là qu'est sortie une grande abondance et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser au STEP. Et c'est ça aussi qui a été un des points de départ aussi du scénario. C'est-à-dire que on dit, tiens, si on peut faire ça, est-ce que si on essayait d'intégrer ça dans un scénario pour faire quelque chose d'un peu sérieux. Et on dit, banco, soyons sérieux et allons développons la chose jusqu'au bout. Voilà, donc on a fait ça. Grande abondance en l'état, il y a peu de chance, tel que je l'avais proposé en 2020, il est très difficilement faisable parce qu'on est sur il est peu probable que la géologie du site de barrage supporte un barrage de 300 mètres de haut, sachant qu'on a des doutes sur une dérive. En revanche, revue à la baisse, donc au lieu de 3 TWh, on n'en stocke plus qu'un, mais c'est un projet qui aurait déjà plus de beaucoup plus de vraisemblance, en grande partie déjà parce que le marnage du Léman se limiterait à un seul mètre, c'est-à-dire la plage actuelle de variation de son niveau. Donc ce serait compatible avec le maintien du Léman, ça gênerait pas grand monde en fait. C'est le plus gros point, parce que le plus gros point le plus gros obstacle avec ce projet, c'était le fait que le Léman nous appartient qu'à 2/5. Donc on est obligé d'avoir l'aval des Suisses pour pouvoir y toucher. Voilà, donc mais c'est pas dans une version revue, c'est pas un projet il est pas délirant. En tout cas, parmi tous ceux qu'on a fait, c'est pas le plus délirant.
Donc, fini le fromage.
Non, par contre, alors, je suis un très grand amateur de fromage. Donc, vous inquiétez pas, si j'avais vraiment risqué de supprimer un fromage, je l'aurais empêché bien avant. Non, vous inquiétez. L'air, l'AOP d'abondance, elle fait la moitié de la Haute-Savoie. Vous n'avez pas de risque là-dessus. Vous aurez toujours du fromage d'abondance, même si on faisait ce projet. Et sachant qu'on en a plein d'autres dans la queue, dans la liste d'attente, qui peuvent passer avant et dont certains qui ont des capacités vachement plus importantes.
Merci beaucoup Benjamin Larrido d'être venu sur ce podcast, deuxième épisode du podcast Révolution énergétique. Merci à tous de l'avoir suivi et je vous propose de le partager, de le liker sur toutes les plateformes s'il vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et merci encore Benjamin Larrido, à une prochaine.